Voilà, merci beaucoup. J'ai un peu la bougeotte, c'est pour ça. Je me sens un peu coincé juste derrière le micro là. Voilà, c'est une joie d'être avec vous, de passer ce week-end avec vous, cette journée avec vous. Mon petit doigt me dit que ce n'est pas la première, c'est pas la première ni la dernière fois. Hein? Voilà. Voilà. Je voudrais ouvrir la parole ce matin et je voudrais partager avec vous un message très simple. Alors, je ne vais pas vous faire de la grande théologie. Mais je voudrais vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Ce n'est pas un message que j'ai déjà porté sur Ajaccio, mais c'est vraiment une pensée que Dieu m'a donnée pour ce matin. Et je voudrais lire deux versets en introduction. Alors, tout à la fin du livre de la Genèse. Alors, je pense que les versets vont passer derrière moi. Voilà. Hein, vous connaissez cette histoire que personnellement j'affectionne beaucoup, l'histoire de Joseph. Cet homme qui a quand même vécu des choses extraordinaires. Mais qui est quand même passé aussi par des temps difficiles. Alors, vous rappelez un petit peu tout son cheminement, tout son parcours. Il y avait un projet de Dieu, il y avait un plan de Dieu. Mais alors, entre le moment où il y a eu le projet de Dieu et puis où les choses se sont réellement mises en place, il y a eu tout un parcours, il y a eu tout un tas de galères qui se sont passées. Et puis, tout à la fin, c'est un petit peu la conclusion de l'histoire de Joseph. Voilà ce que cet homme va dire. Il s'adresse à ses frères. Vous vous rappelez qu'il les avait reconnus, enfin, plutôt ses frères avaient reconnu Joseph. Et puis, bon, les choses s'étaient un petit peu entre eux rabibochées, heureusement. Et la Bible nous dit ceci, c'est que ce garçon va dire à ses frères, Genèse chapitre 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Et je voudrais surtout qu'on retienne pour nous ce matin cette parole. Vous aviez médité de me faire du mal et Dieu l'a changé en bien. Et la pensée qui était sur mon cœur, elle était celle-ci. Dieu est encore aujourd'hui celui qui change le mal en bien. Alors ce message, il a une petite histoire. Voilà. Je ne sais pas comment vous fonctionnez avec Dieu, mais moi j'aime bien quand de temps en temps il y a un petit clin d'œil de Dieu. Ce que moi j'appelle des petits clins d'œil. Vous savez, ça vous fait du bien, ça vous booste, waouh, ça vous donne de l'énergie. Il y a environ 3 semaines de ça, comme je savais que je venais ce week-end-là, dans mon culte personnel, je disais, Seigneur, donne-moi la pensée pour Arles, quoi. Bon, les fendus spirituels, c'est bien, on peut reprendre un message, mais. Je pense que Dieu a toujours quelque chose de frais, quelque chose pour un moment précis, voilà, pour une situation précise. Et je ne vais pas dire que j'ai entendu une voix, mais quasiment tout de suite, il y a cette pensée qui est venue sur mon cœur, Dieu change le mal en bien. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour Alain, mais souvent, quand c'est comme ça, je me dis, bon, ça vient de toi, ou c'est peut-être toi qui es influencé par des situations ou par certaines circonstances que tu connais, que tu sais. Bon. Voilà. Alors je ne me souviens plus exactement si c'était le jour même ou le lendemain. Il y avait une sœur de l'église d'Ajaccio qui me demande de passer la voir. Je ne savais absolument pas pourquoi, de lui faire une visite. Et donc, je vais lui faire une visite. C'était pour son mari. Alors, son mari n'est pas du tout converti. Pourtant, il a un prénom prédestiné. Il s'appelle Élisée. Comme je dis, avec un prénom comme ça. Bon, bref. Hein, mais c'est un homme qui est pas hostile aux choses de Dieu, qui est pas fermé, et chaque fois que j'y vais, il me reçoit sans problème. Et en fait, la sœur, elle voulait que je prie pour son mari parce que il s'était passé ceci, c'est que ça faisait quelque temps qu'il avait des douleurs au ventre, et donc ça faisait plus d'un an, et il voulait pas aller voir le médecin. Voilà. Et finalement, il a fini par s'y résoudre, il y est allé, et puis ils lui ont trouvé un ulcère à l'estomac. Voilà, donc il le traitait, sauf que en trouvant ce problème d'ulcère à l'estomac, ils ont trouvé aussi autre chose, quelque chose sur lequel ils n'avaient pas prévu de tomber. Ils ont trouvé un départ de cancer de la prostate. Et donc, bon, c'était pris au départ. Et la sœur me dit, alors, et tout ça c'est dans le contexte, la sœur me dit, ben finalement, vous voyez, Dieu a changé le mal en bien. Parce qu'on n'était pas parti pour ça. Et par ce biais-là, par le biais de cet ulcère, ils y ont trouvé ce début de cancer. Et elle me répète, Dieu a changé le mal en bien. Je fais, ça va, ok, Seigneur, j'ai compris. Voilà. Donc, j'ai dit, vraiment, cette pensée, elle était là sur mon cœur. Et je crois vraiment que ce matin, c'est la pensée du Seigneur. Mon but ce matin, c'est de nous encourager les uns les autres et nous amener à réaliser qu'à partir du moment où on a remis notre vie entre les mains du Seigneur, il nous faut toujours garder à l'esprit, non seulement à l'esprit, mais dans un coin de notre cœur, que Dieu est celui qui est capable, en toute situation, en toute circonstance, de changer le mal en bien. Alléluia. Alors, bien sûr, comprenons-nous bien, le fait de réaliser ça, le fait de lire, notamment dans ce texte, mais on va voir d'autres textes, le fait de le comprendre n'enlève en rien au fait que parfois nous allons passer par de la souffrance. N'enlève en rien au fait que parfois on va passer par des moments d'incompréhension. Et l'histoire de Joseph, elle en est la parfaite illustration. C'est lui qui effectivement dit, affirme, proclame, confesse, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Mais enfin, avant d'en arriver là, il a quand même vécu des choses difficiles. Il a vécu des moments d'incompréhension, il est passé par la prison, il a été calomnié par la femme de Potiphar. Je ne sais pas si vous réalisez que ce que cette femme a dit sur lui, mais pourquoi elle l'a fait passer? Elle l'a fait passer pour un gars tordu, elle l'a fait passer pour un gars qui avait les idées pas très claires, vous voyez. Elle l'a fait, enfin, il a vécu des galères inimaginables. Il est passé par des moments où il a même dû se demander où était Dieu. Il est resté en prison, enfin, et puis on sait que comment Dieu a retourné la situation. Je crois que c'est important de réaliser, c'est vrai, Dieu est celui qui change le mal en bien, mais ça n'enlève à rien parfois de passer par des moments ou des situations où on se pose des questions, il y a un grand point d'interrogation et on n'a pas forcément toutes les explications et toutes les raisons. Mais c'est une certitude, une réalité, Dieu est celui qui est capable de changer le mal en bien. Et je voudrais ce matin, d'une manière très simple, vous montrer que c'est quelque chose qui ressort dans toute la parole. Ce n'est pas simplement un cas isolé dans la Genèse avec l'histoire de Joseph où on pourrait se dire, ah ben, lui, il a eu entre guillemets, un peu de chance, mais c'est le seul. Non, c'est quelque chose qui ressort dans toute la parole. On le voit dès le départ dans le livre de la Genèse, mais vous allez voir, on le voit jusqu'à la fin, jusque dans le livre de l'Apocalypse. Et je voudrais citer 3-4 exemples rapidement et je voudrais tellement que ce matin, ça puisse nous stimuler. Moi, j'arrive, je ne vous connais pas. Je ne connais pas les situations, je ne connais pas les circonstances, je ne sais pas ce que peut-être on est en train de traverser. Mais je sais une chose, c'est que Dieu change le mal en bien. Alléluia. Premier texte, on va l'afficher, on va aller dans le Nouveau Testament, un passage que j'affectionne particulièrement, dans le livre des Actes au chapitre 8, on va lire les 4 premiers versets. Voilà, c'est un texte, des passages que vous connaissez, où il y a des mots forts. Hein, on est là au début de l'Église naissante, il y a des prodiges, il y a des miracles, il y a des conversions, mais il y a aussi de l'opposition. Voyez. Et il est dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Notez bien que il y a quand même, pour avoir le verset premier, il y a quand même des mots qui sont là et qui sont forts. Le meurtre d'Étienne, une persécution, c'est déjà pas mal, mais là, il est dit une grande persécution. Voyez, ils ont été obligés de se disperser. Et puis, la suite du texte continue, il nous est dit ceci. Des hommes purent ensevelir Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Et Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Mais là aussi, c'est fort. Il dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, je l'ai souligné, il y a quand même ici des mots forts. Et notamment, au verset 3, il est dit, Saul ravageait l'église. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais quand vous lisez ça, ravager l'église, ça nous renvoie à des images fortes. Vous voyez, on se dit, mais c'est terrible. Alors, je ne suis pas un féru de grec, c'est pas mon truc. Je ne voudrais pas que vous croyiez que dans le grec, je m'y entends, mais j'ai quand même regardé un petit peu. Ce terme ravager en grec, je vous fais grâce du mot en grec, mais la pensée, c'est apposer une marque. C'est apposer un stigmate. C'est dans le sens que, quand il est dit Saul ravager l'église, c'est dans le sens qu'il cherchait à marquer les esprits. Voyez, lui, par toutes les actions qu'il faisait, il voulait marquer les esprits. Voyez, apposer une marque, apposer des stigmates. C'est dans ce sens-là. Et c'est vrai que quand on lit tout cela, finalement, on pourrait se dire, mais tu es où, Seigneur? C'est ton église. C'est des gens que tu as sauvés, c'est des gens qui se sont tournés vers toi. Et on pourrait se dire, mais tu fais quoi? Seigneur, pourquoi tu permets ça? Pourquoi, Seigneur, tu n'interviens pas? Pourquoi, Seigneur, à un moment donné, au milieu de la mêlée, tu n'arrives pas comme un héros qui sauve? D'ailleurs, c'est un passage qu'on connaît dans le livre de Sophonie. Dieu est un héros qui sauve. Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas dans cette situation-là? Et c'est vrai que tout ça, c'est des questions qu'on se pose parfois. C'est dit, mais Seigneur, pourquoi? Comment ça se fait? Pourquoi tu n'interviens pas, voyez? Et on est là et on cogite. Et la situation semblait critique, en tout cas, quand on lit ce passage. J'essaie de me mettre dans la peau de tous ces chrétiens, de tous ces croyants, de se dire, mais ce n'est pas possible. Mais comment se fait-il que rien ne se passe? Comment se fait-il que cet homme fait du mal comme ça? Comment se fait-il que cet homme persécute l'Église? Et on est là et on peut se poser des tas de questions. Mais ce que j'aime dans ce texte, c'est que d'un mal, Dieu va en faire un bien. Et j'aime bien surtout ce verset 4 là, parce que ça pourrait sembler être un détail, mais c'est ça qui change tout. Puisque la Bible nous dit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Rappelez-vous qu'à la base, le plan de Dieu c'était quoi? Jésus l'avait dit, acte chapitre 1 verset 8, on va l'afficher, vous connaissez bien ce passage, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le problème, c'est qu'il semblerait, on ne va pas les juger, mais que les disciples, ils étaient bien entre eux, et ils étaient restés à Jérusalem. Voilà. Ils étaient bien entre eux. Voilà. Et on se rend compte que finalement, c'est par le biais de cette persécution que le plan de Dieu va s'accomplir. C'est par le biais de ce moment difficile que le plan de Dieu va se mettre en route. Et vous lirez la suite, à partir du verset 5, la Bible nous dit que Philippe l'évangéliste va descendre en Samarie, il va y avoir un réveil extraordinaire, il y a des choses extraordinaires, puissantes qui vont se passer, un réveil, à tel point que même Pierre et Jean vont descendre, ils vont imposer les mains aux gens, enfin, il va se passer des choses extraordinaires, voyez, un réveil qui est parti d'un moment difficile, un réveil qui est parti d'un moment de persécution, et que dis-je, d'une grande persécution, voyez. Et tout est parti de là. Et je bénis Dieu parce que finalement, on se rend compte que Dieu s'est servi quelque part de la méchanceté de Saul de Tarse qui ravageait l'Église. Dieu s'est servi de ça pour accomplir son plan et pour amener derrière un réveil, pour que les choses de Dieu se mettent en place, pour que le plan de Dieu se mette en place. Et ce qui, au départ, semblait être quelque chose de définitif, ce qui au départ semblait être à première vue, tout à l'heure il a été question de ne pas regarder aux apparences dans un don spirituel, mais ce qui en apparence semblait être un enterrement de première classe du christianisme par la main de Saul de Tarse, s'est révélé en fait être le point de départ du plan de Dieu. Et l'évangile s'est répandu, et ils ont commencé un petit peu à aller à droite, à gauche, et faire finalement ce que Jésus avait annoncé, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et je me dis, mais Seigneur, il n'y a que toi qui es capable de faire ça. D'un mal en faire un bien, d'une situation pénible, d'une situation compliquée, d'une situation difficile, l'amener à devenir quelque chose de bénissant. Et combien de fois, au cours des années de ministère, et peut-être vous l'avez constaté aussi, mais j'ai vu ce genre de situation, ce genre de circonstance. Au départ, ça ne disait rien qui vaille. Au départ, à vue humaine, en apparence, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon d'un truc comme ça? Qu'est-ce qui peut sortir de bon d'une situation, d'un contexte comme ça? C'était pénible, on ne voyait pas la fin, on ne voyait pas l'issue. Et puis à un moment donné, les choses se sont retournées. Et on s'est rendu compte que quelque part, Dieu s'est servi de cette difficulté, Dieu s'est servi de cette souffrance pour accomplir quelque chose qu'on n'imaginait même pas. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Dieu change le mal en bien. Alléluia. C'est un petit peu aussi l'histoire, rappelez-vous, qui ressort de cette petite épître de Paul à Philémon. Ça vous dit quelque chose? C'est dans la Bible, hein? L'épître de Paul à Philémon. Je vous rappelle rapidement le contexte. Question d'un homme qui s'appelait Onésime et puis qui s'est enfui de chez le patron. Alors je vais mettre avec des mots d'aujourd'hui, hein. Il s'est enfui de chez le patron. Le problème, c'est qu'il s'est enfui de là en s'en mettant plein les poches, quoi. Il est parti avec la caisse. Je vais le dire comme ça. Hein? Et puis, cet homme, est-ce que c'est à cause de ça ou est-ce que c'est pour d'autres larcins, on ne sait pas trop. Il s'est retrouvé en prison. Et là, comme diraient certains, entre guillemets, le hasard fait bien les choses. Mais avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il s'est retrouvé au contact de l'apôtre Paul. Vous voyez ? Qui peut-être, lui, devait se poser des questions. En plus, à ce moment-là, dans cet épître, il le dit, moi, Paul, vieillard, il était en fin de parcours, et certainement que peut-être Paul devait se dire, mais Seigneur, pourquoi tu me laisses là? Là, au contact de cet homme, au contact de l'apôtre Paul, Onésime, cet homme va se convertir. Vous voyez? Et j'aime ce qu'il est dit, les deux versets que j'ai pris, entre autres. Paul qui dit « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, en prison, Onésime, qui autrefois, et là il s'adresse à Philémon, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. » Waouh ! Quel retournement de tendance ! Et cet homme qui était parti comme un voleur, cet homme qui était parti, maintenant va devenir pour Philémon non plus un esclave, d'ailleurs vous lirez la suite à la maison, mais il va devenir un frère en Christ. D'une situation qui semblait, entre guillemets, pourrie, situation, on pourrait se dire, c'est pas possible, mais Dieu l'a retourné, Dieu a changé le mal en bien. Et je me faisais cette réflexion, c'est quand même dans une prison que la situation s'est retournée. C'est fou ça. Dans une prison. Il y a tellement de situations dans lesquelles on peut se retrouver qui ressemblent à des prisons. On tourne en rond. On se dit, mais il y a comme des barreaux là. L'impression qu'on n'en sort pas. Des fois, on a l'impression qu'on a pris pour perpète. Et on tourne en rond. Je bénis Dieu parce que Dieu est celui qui est capable de changer le mal en bien. Et de nos prisons, que ce soit la prison de la maladie, la prison de la dépression, la prison de tout un tas d'autres choses, Dieu est capable de changer le mal en bien. Cette prison, elle va se transformer en un lieu de bénédiction. Cet homme va être touché, va être béni par le Seigneur. Il y a un changement, une transformation profonde qui va s'opérer en lui, à tel point que l'apôtre le dit, autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il est utile et à toi et à moi. Cet homme, il est devenu une bénédiction. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer le mal en bien de cette façon-là. Et peut-être ce soir, je ne sais pas, peut-être ce matin, peut-être on se sent comme dans une prison. Et on se dit, mais Seigneur, je tourne en rond, c'est noir. Dieu est celui qui peut transformer les prisons en un lieu de bénédiction, qui est capable de changer le mal en bien. J'ai noté dans le psaume 84, il est question de la vallée de Baca, la vallée des pleurs. Il est dit que ceux qui se confient en l'Éternel la transforment en un lieu plein de sources. Alléluia. Il la transforme en un lieu plein de sources. En tout cas, dans le cas de Onésime, dans le cas de Philémon, dans le cas de ce contexte, on se rend compte que quelque part, cette prison est devenue un lieu de bénédiction. Alléluia. Et ce soir, ce matin, je ne sais pas dans quelle situation on se trouve qui ressemble de près ou de loin à une prison, mais je crois une chose de tout mon cœur, c'est que Dieu est capable de la changer en un lieu de bénédiction. Alléluia. Aujourd'hui, vous le savez comme moi, il y a 11 candidats qui se présentent et qui pensent, et qui sont sincères, hein, je ne remets pas ça en doute, que par leur programme, ils vont changer les choses. Nous, on sait très bien que le seul qui est capable de changer les choses, c'est le Seigneur. Alléluia. Et c'est pour ça que c'est bon d'avoir sa vie, d'avoir remis son existence entre les mains du Seigneur. Et ce que Joseph proclamait il y a déjà des siècles en arrière, vous savez, méditer de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, on peut le proclamer encore aujourd'hui. Alléluia. Et peut-être ce matin, vraiment prendre une position devant Dieu. Seigneur, je ne comprends pas tout. Je me sens en prison comme sur Onésime. Seigneur, comme ces premiers chrétiens, il y a des pourquoi, il y a des comment. Mais Seigneur, je veux te faire confiance ce matin. Parce que tu es le Dieu qui change le mal en bien. Alléluia. Puis j'ai pensé aussi, quelque part, c'est un petit peu ce qui ressort du livre de l'Apocalypse. C'est une vérité qui ressort aussi dans ce livre-là. On se rappelle qu'au départ, quand on pense à Apocalypse, on voit les révélations, on voit tout ce qui se passe dans le ciel, les êtres vivants, les 24 vieillards. Waouh, on voit tout ça, on se dit c'est super, c'est extraordinaire. Bon, on ne saisit pas tout, on ne maîtrise peut-être pas tout, on n'a pas toutes les explications, chacun un peu la sienne, mais bon, on se dit Seigneur, c'est extraordinaire. Oui, mais souvent ce qu'on oublie, c'est qu'au départ, ce livre, ce n'était pas gagné d'avance. La Bible nous dit ceci, on va l'afficher, Apocalypse chapitre 1, verset 9. Jean commence en disant « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos. » Notez bien, à cause de la parole de Dieu et des témoignages de Jésus. Il est en exil. À cause de sa foi. Donc, ce n'était pas Club Med. Hein. Situation difficile pour lui, voyez. Et Patmos, j'avais fait quelques recherches il y a quelques années en arrière, mais c'est une île qui ressemble à un caillou, où il pousse quasiment rien. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire son petit jardin potager, quoi. Là, il ne risquait pas, ça ne poussait pas. Il y avait rien qui sortait de là, une île infertile. Et c'est ça qui est quand même extraordinaire, quand on voit un petit peu le contexte, de se rendre compte, de prendre conscience que de cette île infertile où rien ne poussait, c'est de là que va sortir le livre de la Révélation, de l'Apocalypse, avec tout ce qu'on lit derrière. Quand je vois ça, je me dis, mais Seigneur, c'est extraordinaire. Et quand je pense que ces gens qui ont mis l'apôtre Jean en exil sur cette île, qui l'ont envoyé là-bas, pensaient le mettre hors d'état de nuire, on n'entendra plus parler de lui, on n'entendra plus parler de sa foi. Eh bien, encore aujourd'hui, on parle de la visitation qu'il a eue à Patmos, cette vision du Christ dans son corps glorifié. Et quand vous lisez la suite du chapitre 1er, moi, chaque fois que je le lis, j'en ai les poils qui s'érigent. Je me dis, mais ce qu'il a vu, c'est extraordinaire. Et il a vu ça dans un contexte où rien ne poussait. Il a vu ça dans un contexte où on l'avait mis là justement pour que plus rien ne se passe. C'est de là que sort le livre de la Révélation. Je crois qu'il y a des situations dans nos vies qui ressemblent à des Patmos. C'est-à-dire qu'on se dit, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de là-dedans ? C'est pas possible. Il y a des situations, franchement, et des fois on s'y retrouve confronté de près ou de loin. On se dit, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de là ? Qu'est-ce qu'on peut sortir de positif d'un truc comme ça ? D'une situation comme ça ? D'une souffrance comme ça ? D'un problème comme ça ? Qu'est-ce qu'on peut sortir de positif ? C'est là qu'on réalise que Dieu est capable de justement de changer le mal en bien. Et d'une situation où humainement parlant, il n'y a rien de bon qui peut en sortir, il n'y a rien de positif qui peut en sortir, Dieu lui est capable de faire sortir quelque chose d'inimaginable. Je suis convaincu que même Jean lui-même jamais n'aurait pensé, n'aurait imaginé avoir la vision de tout ce qu'il a vu, de ce que Dieu lui révèle, toutes ces choses, et de ce qu'encore aujourd'hui, on en parle. Encore aujourd'hui, on est là, et on est émerveillé devant tout ce qui nous est annoncé. Le livre de l'Apocalypse, il sort d'un endroit d'où rien ne pouvait sortir, d'où rien ne pouvait pousser. Ben ça, c'est notre Dieu aussi. Il est capable de faire sortir des choses, de situations qui semblaient inimaginables, sans issue. Il est capable d'en faire sortir des choses qu'on ne soupçonnait même pas. Et quand l'apôtre Paul va dire qu'il est celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons, ben je dis Amen. Amen. De cette situation dans le livre de l'Apocalypse, situation de persécution, il est là, on le met là, il est tout seul, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de réunion, il n'y a rien, il n'y a pas la chorale, il n'y a rien du tout. Il en sort quelque chose d'extraordinaire, de glorieux à la mesure de Dieu. À la mesure de Dieu. Et c'est ce Dieu-là qu'on a. Et ce matin, je bénis le Seigneur de ce que notre Dieu, il est tout puissant et il est capable de nos Patmos, de ton Patmos, de faire sortir quelque chose de glorieux à sa mesure, comme seul lui peut le faire. Les hommes, ils peuvent rien. Mais Dieu, lui, est capable de ça. Alléluia. Et combien de fois on a entendu des témoignages, et j'en ai entendu, j'en ai vu, et certainement vous aussi, où il semblait que... Et puis Dieu était intervenu. Et de mal, il en est sorti un bien. Alléluia. Et puis permettez-moi peut-être un dernier cas, je ne veux pas être long. Mais là, tout autre chose. Ça aussi, je crois que c'est une situation, quelque part, qui à la base n'est pas très positive. Mais quelque part, avec la grâce de Dieu, si on réagit bien, ça peut devenir quelque chose de bon. Hein. Rappelez-vous un petit peu ce qui se passait dans l'église de Corinthe. J'ai souvent dit que je n'aurais pas aimé être le pasteur de l'église de Corinthe. Je laisse ça à d'autres. On sait que c'était pas la joie, il y avait des choses un petit peu à redresser, à recaler. Et bon, l'apôtre Paul va le faire, et notamment il y avait une situation, vous vous rappelez, qui était quand même assez surprenante, assez étonnante, qui était là dans l'église. On va aller peut-être lire quelques versets. L'apôtre Paul qui dit: « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. » Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plus tôt dans la fiction. Autrement dit, ça les a pas perturbés plus que ça. Hein. Alléluia, gloire à Dieu, ça chantait les cantiques, tout va bien, madame la marquise. Et c'est un peu ça, quoi. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Et l'apôtre Paul dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. quand on lit ça, on se dit ça, l'atmosphère spirituelle est, c'est pas terrible, hein, c'est en tout cas pas au beau fixe. Mais ce que j'aime dans cette situation, c'est ce qui nous est dit un petit peu plus tard dans la deuxième épître aux Corinthiens. Et ça, c'est beau. Ça, moi, j'aime ça. On va l'afficher, regardez, de Corinthiens 2. Merci, la vidéoprojectionniste. L'apôtre Paul revient sur cette situation et dit « Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner, le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. » Alors je résume un petit peu. Il semblerait, merci Seigneur, que cet homme se soit repenti. Alléluia. Il s'est repenti, il est revenu de ses mauvaises voies. Et Paul, l'apôtre Paul, maintenant que c'est fait, ben, est en train de dire à ses chrétiens, hey, « Hé les gars, la discipline, entre guillemets, elle a porté son fruit. Il s'est repenti, il a eu la bonne attitude, il a eu le bon comportement, il y a les fruits de la repentance. Alors maintenant, ne le laissez pas comme ça, quoi. Accueillez-le, recevez-le, entourez-le, soyez avec lui. Alléluia. » Vous voyez, donc, quelque part, au départ, ce n'était pas très positif, mais je me dis quelque part, d'un mal, d'une certaine façon, il en ressort un bien, puisque cet homme, il est comme revenu à lui-même, il a réalisé, le Saint-Esprit a certainement fait son œuvre aussi, et il est revenu, et il s'est repenti. Ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des situations, c'est vrai, dans les églises, où il faut exercer la discipline. Et ça, en général, on n'aime pas trop ça. En tout cas, le pasteur, il n'aime pas ça, quoi. Vous voyez ? Il faut aller voir un frère, il faut aller voir une sœur. Des fois, pour dire, écoute, là, ton attitude, ça ne va pas, quoi. Il faut que ça change. C'est jamais évident. Je ne sais pas, là, pour l'apôtre Paul, bon, ça n'a pas dû être simple. Surtout quand vous lisez un petit peu, j'ai passé très vite, mais il ne s'est pas fait que des amis dans l'histoire, hein. Quand vous lisez le contexte, vous vous rendez compte que certains, ils l'ont pas vu comme ça. Bon, il y avait d'autres choses, mais enfin, voyez. Et c'est plus facile de rien dire, de fermer les yeux. C'est-à-dire, bon, voyez. Mais quand la personne, elle se repent, quand la personne, elle réalise, elle prend conscience, dit oui, c'est vrai, et qu'elle revient de tout son cœur, qu'elle change d'attitude, qu'elle change de comportement. Mais moi, je dis alléluia. Et d'un mal, ça devient un bien. La Bible dit, c'est Dieu qui le dit, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Alors, c'est vrai qu'au départ, quand Dieu nous reprend, on n'aime pas ça. Celui qui aime ça, vous aimez ça, vous ? Moi, j'aime pas. Hein. On est tous pareils. Hein. On fait la tête, hein, on boude. Hein. Mais enfin, si le Seigneur est vraiment dans notre cœur, à un moment donné, on se rend compte que bon... Il a raison, quoi. Peut-être vous donner un petit témoignage, quelque chose qu'on a vécu dans une église où on est passé. Ça n'a pas été évident. Au bout de... On venait d'arriver dans cette église et au bout de quelques mois, j'étais obligé de faire quelque chose que j'ai fait qu'une fois et que j'espère ne plus jamais refaire, ou devoir refaire. D'exclure des gens pour des comportements qui n'étaient pas... adéquate avec le comportement, l'attitude qu'on attend d'un croyant. Vous voyez ? D'autant plus quand plutôt que d'avouer, parce que bon, on est des humains, la Bible dit celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Quand la personne dit bah oui, c'est vrai, mais quand la personne mise devant le fait, mais continue à dire non, au bout d'un moment, vous êtes obligé de faire quelque chose, surtout quand c'est grave. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails. Et on a été obligé d'exclure ces gens, ces frères et sœurs. Ça n'a pas été évident. Et puis pendant quelques mois, il ne les a plus trop vus, faisait une apparition de temps en temps. C'était jamais évident. Dans l'église, forcément, ça crée un peu de tension, parce qu'il y a toujours les pour et les contre. Vous voyez ? Et puis quelques mois plus tard, je passe vite... Ce frère et cette sœur m'ont appelé, m'ont demandé une visite, je suis allé les voir et quelle joie quand ce frère s'est repenti et a reconnu qu'effectivement, les choses ne devaient pas être comme elles avaient été. Et je passe sur beaucoup de choses, mais autant ça avait été difficile, la première décision, autant quelle joie ça a été de les réintroduire dans le peuple de Dieu. Ça a été une bénédiction. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces mêmes personnes, après, pour moi, pour nous, dans le service de Dieu, sont devenues des aides précieuses. Et quand on retrace l'histoire et qu'on voit ce qui s'est passé au départ et qu'on voit aujourd'hui la situation, je me dis, mais qui aurait cru, hein? Mais quelque part, d'une situation pénible, douloureuse, difficile, où c'est vrai, il n'y avait pas tous les torts, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais d'un mal, il en est sorti un bien. D'un mal, il en est sorti un bien. Tout ça pour dire quoi? Peut-être mon frère, ma soeur, je ne sais pas. Moi, je débarque. Hein. Peut-être le Seigneur t'a repris dans un domaine ou dans un autre. Quelle qu'en soit la forme, quelle qu'en soit la façon, qu'importe. Peut-être le Seigneur a mis le doigt par un don spirituel, peut-être par un frère, par une sœur, par le serviteur de Dieu. Qu'importe la façon. Et c'est vrai que notre nature, elle n'accepte pas. Notre nature charnelle, elle est là, elle regimbe. Mais j'aimerais peut-être te dire que si Dieu le fait, c'est parce qu'il t'aime. Et si Dieu le fait, c'est parce que de ce qui est négatif, Dieu est capable d'en faire quelque chose de positif. Et quelque part, de quelque chose qui peut-être est en train de nous attirer vers le bas, il va en faire quelque chose et qui va nous entraîner plus loin avec lui. Il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Mais là, par contre, il faut notre participation. Ça se fera avec nous, pas sans nous. Dieu ne le fera jamais en nous forçant. Et si peut-être ce matin, il y a un domaine où il y a un frottement, il y a une résistance, j'aimerais t'encourager à capituler devant Dieu. À capituler devant Dieu. Parce que c'est toujours pour que quelque chose de négatif, quelque chose qui n'est pas bon, eh bien, il en sorte quelque chose de positif. Alléluia. Et ça, c'est bon quand Dieu le fait. Et ça, c'est bon quand on permet à Dieu de le faire et de nous amener plus loin. Alors, je termine. Tout à l'heure, je parlais de ces 11 candidats. Il n'en restera plus que 2 ce soir. Il n'en restera plus que 2. Les 2 sont persuadés que ça va changer avec leur programme. Nous, on sait que le seul qui est capable de faire ça, c'est le Seigneur. Et le but de ce message, c'est de nous encourager vraiment les uns et les autres. Quelle que soit notre situation, que ça ressemble à celle de Joseph, que ça ressemble à celle d'Onésime, celle des premiers chrétiens, de Jean à Patmos, ou une autre situation. Le but, c'est de nous encourager les uns et les autres à garder dans un coin de notre esprit, de notre cœur, que Dieu est encore aujourd'hui celui qui change le mal en bien. Il n'y a que lui qui est capable de le faire. Et c'est pour ça que c'est bon non seulement de lui donner notre vie, de remettre notre vie entre ses mains, mais de continuer à le faire. De continuer à le faire. Il y a des fois tellement de situations, et tout à l'heure il y a eu un don spirituel de veiller sur notre âme, mais c'est parce que c'est tellement beau de laisser notre vie entre ses mains jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Seigneur, j'ai un jour commencé à te faire confiance, alors Seigneur, ce n'est pas maintenant que je veux lâcher, parce que je sais une chose, c'est que toi tu es capable de changer le mal en bien, tu es capable de changer le négatif en positif, tu es capable de changer ce qui fait mal aujourd'hui en quelque chose de bénissant pour demain, et non seulement pour demain mais dès maintenant. Change les vallées de Baca en un lieu plein de sources. Alléluia. Alors j'aimerais que ça puisse nous encourager ce matin. Je voudrais peut-être qu'on puisse garder ça sur notre cœur. Je l'ai dit, ce n'est pas de la grande théologie, mais c'est vraiment ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et moi, je ne sais pas, je me dis peut-être il y a des situations ce matin qui sont là et qui sont peut-être douloureuses, qui font mal, ce n'est pas évident. Il y a peut-être au-dessus de ta tête des grands points d'interrogation. Ben, je voudrais tellement que ce matin, eh bien, on puisse vraiment dire, Seigneur, je veux garder ça dans mon cœur. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi. Tout ça, ça m'échappe, mais je sais une chose. C'est que tu es le Tout-Puissant et que c'est toi jusqu'au bout qui as le dernier mot. Alléluia.